avant de commencer le débat, il y a deux, trois personnes qui nous ont dit que c'était dommage, on ne s'était pas en fait assez présenté, et qui on est en fait. Voilà. Donc on va se présenter, et après on laissera aussi la parole à Catherine Lafont, qui va vous présenter un projet lié au revenu de base. Eh ben, elle va se présenter.
Surprise.
Invité surprise. Voilà. Et après, on part dans le débat. Voilà. Alors, c'est vrai, on est parti comme ça direct. Comment j'en suis arrivée au revenu de base? J'en avais entendu parler fin 98, par là. 96-98, il y avait un article dans Le Monde, quelque chose comme ça à l'époque. J'avais trouvé cette idée surprenante et très intéressante. J'en avais parlé autour de moi. J'ai pas eu d'écho, et puis bon, j'étais très occupée aussi professionnellement, donc je n'étais pas allée plus loin. Quoi. Et en 2008, après j'ai travaillé beaucoup dans le web, et j'étais tous les réseaux numériques, etc., avec des activistes du web, d'internet, etc. Et là j'ai rencontré une personne qui me parle du revenu d'existence à l'époque, de Yolande Bresson. Je dis, ben oui, moi j'en suis persuadée de ce truc-là. Alors on commence à plancher dessus. Il me dit, on lance une pétition informelle, comme ça, comme on fait les pétitions internet. Et on a lancé, on l'a préparé, et en mai 2009, on a lancé une pétition qui s'appelait Appel pour le revenu de vie. On l'avait appelé comme ça. Et on a eu, alors bon, pendant un an, on a fait beaucoup de buzz, hein, comme on pouvait, dans nos réseaux, comme ça, numériques en fait. Ça a été que numérique. On a eu 4-5 000 signatures, mais ce qui était sympa, c'est qu'on avait laissé la place pour que les gens puissent laisser des petites phrases. Et on a eu des phrases extraordinaires, des petits messages, le genre, c'était vraiment sympa. Et voilà, et puis après, bien, petit à petit, moi je me suis mis, militer, j'aime pas ce mot parce que ça fait militaire, mais à m'activer pour faire connaître cette idée de revenu de base. Alors d'abord en Ardèche où j'habitais, et ensuite à Toulouse, quand je suis arrivée à Toulouse, il y a maintenant 3 ans et quelques. 3 ans et demi. Et tout a commencé en 2011. On a fait passer un film suisse-allemand qui s'appelle Un revenu de base, une impulsion culturelle, que vous trouvez sur le site revenudebase.info. Alors, il y a une version longue de 1h30 et une version courte de 45 minutes. La version courte coupe toute la fin du film qui est sur un mode de financement par TVA qui avait été pensé par un courant en Allemagne, comme en France et comme dans tous les pays, hein, il y a plein de courants différents, mais toujours d'accord sur la même formule de base. Et donc on a passé ce film à Utopia, la salle était pleine, on a eu un débat super, et à partir de là, on a monté un petit collectif à Toulouse, on s'est réunis tous les mois, et on a organisé des conférences, débats un peu partout. Et Mathieu nous a rejoints. Il y a un an,
alors moi je suis, mon métier c'est kinésithérapeute, j'exerce dans le quartier le plus pauvre de France, au Mirail, où je suis né, donc j'ai plus de 35 ans que je suis au Mirail, je travaille depuis 14 ans et donc je suis conscient des inégalités, parce que beaucoup de gens peut-être ne sont pas conscients. Voilà, donc j'étais à une époque le kiné qui avait le plus de patients CMU. Hein, 85% de ma clientèle, ma patientèle, à la CMU. Donc vraiment, j'ai perdu 4 patients par balle. Enfin bon, je connais vraiment les problèmes de la misère et des inégalités, hein, à tous les niveaux, social, économique. Et donc, voilà, réfléchir beaucoup à ces inégalités que je vois depuis, croissante depuis surtout 14 ans que je travaille. Et donc, l'année dernière, Carole a organisé avec le petit collectif toulousain un événement exactement comme celui-ci, dans la maison de quartier de Bagatelle, enfin un lieu emblématique toulousain, au Mirail. Et donc, j'ai découvert le revenu de base exactement comme vous. Hein, donc, et comme c'est un mouvement citoyen, on s'est contacté. Et j'ai même stimulé notre équipe à aller en Tunisie pour le Forum Social Mondial. Donc on a enchaîné, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a fédéré une petite équipe, on était 6 ou 7. Et voilà, donc on a généré des débats sur le revenu de base donc au Forum Social Mondial de Tunis. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Et depuis, alors, je suis... je travaille moins pour bénévolement, en tout cas, puisqu'il n'y a pas le choix, de développer cette idée et j'apprends tous les jours. Voilà.
Alors on va laisser la parole à Catherine Lafont, parce que je vous parlais de ce film-là, suisse-allemand, et c'est le seul film qui a été vraiment réalisé. C'est un excellent film documentaire, mais c'est le seul film que l'on ait traduit en plus de 27 langues, qu'on ait sur le revenu de base. Et là, il y a une équipe des Zooms Verts sur Toulouse qui a décidé de faire quelque chose. Je laisse Catherine Lafont raconter.
Bonsoir. Donc je fais partie de l'association toulousaine Les Zooms Verts qui fait de l'audiovisuel dans le cadre de, enfin, sur l'écologie, l'économie sociale et solidaire. On a notamment fait un film sur le sol violette dont on a parlé tout à l'heure, la monnaie complémentaire toulousaine. Et donc là, depuis un an et demi, on s'intéresse aux revenus de base et on a eu envie de produire d'autres films que ce qu'on trouvait que le film suisse-allemand était un peu seul. Et on a envie d'apporter ce qu'on savait faire au sujet. Donc sont en cours 3 projets, non pas un mais 3, qui sont un film documentaire réalisé par Michael Lesauce et qui dresse le portrait de différents économistes, différents théoriciens, différents militants, dont Carole d'ailleurs, qui militent autour du revenu de base. Le deuxième projet que je réalise est un film d'animation, ou que j'ai voulu comme un support pédagogique, en fait, pour parler des valeurs qui, moi, me sont importantes et que je vois fondatrices du revenu de base, donc de la solidarité, l'écologie. Et voilà, parce qu'on a dit qu'il y avait différents modèles de revenu de base, et moi, j'ai voulu montrer quel était le mien. Et le troisième projet, c'est une conférence gesticulée. Alors, c'est très à la mode à Toulouse en ce moment. C'est un mi-chemin entre une conférence universitaire avec une personne qui a vraiment un savoir complexe de son sujet, et puis un spectacle vivant, donc avec des témoignages plus personnels, avec une participation du public qui est très importante. Donc une conférence gesticulée, ouais, c'est aborder un sujet complexe, mais par le biais de quelque chose de plus intime, plus proche qu'une conférence universitaire. Donc ces projets sont produits en quelque sorte par l'association, sont produits par deux moyens, la recherche de subventions publiques et ce qu'on appelle du crowdfunding, donc un financement participatif. Il faut savoir que les films seront en licence libre, c'est-à-dire qu'ils seront diffusables et visibles par tout le monde, gratuitement. Mais du coup, il faut les financer en amont par ce financement participatif. Donc on a créé une plateforme. Donc vous avez tous les détails sur ce petit papier. On récolte les dons des militants et des personnes qui ont envie de voir ce sujet, que ce sujet soit de plus en plus débattu, connu, diffusé. Si ces personnes ont envie de nous aider, voilà, elles peuvent le faire sur cette plateforme-là. Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, alors place aux questions. Alors, Léna va gérer, hein.
J'avais coupé
Dominique,
je redonne la parole.
Alors je pose ma question. C'est 400 euros, est-ce que c'est pas faire le jeu de la droite? C'est ce que demandent de nombreuses personnes.
Alors nombreuses, il y a le projet de Christine Boutin. Et après, pas trop, parce que même Marc de Basquiat, qui lui est économiste, qui n'est pas politique. Ah, Jacques Marseille, qui était économiste aussi, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est on met un pied dans le rouage et après c'est aux citoyens de dire qu'il faut l'augmenter peut-être
avec un revenu de base. Justement.
C'est certain qu'un revenu de base trop bas ne permettra pas un changement du système. Ça, on en est persuadé, même si c'est déjà un super démarrage.
C'est ce que les libéraux demandent, ça.
Je pense qu'il faut sortir. Alors le revenu de base transpolitique. Il n'a pas de couleur partisaniste, justement. C'est une des raisons pourquoi, justement, il n'est pas soutenu par les réseaux classiques, hein, syndicats, politiques et tout. C'est que, justement, il ne peut appartenir à aucun parti. Donc, il faut essayer de sortir de cette 400 euros, c'est pas de droite. Non, 400 euros, c'est insuffisant.
Non, c'est tout,
mais peu importe. Non, justement, il est juste insuffisant. 400 euros n'est pas suffisant pour vivre. C'est tout. Donc, après, que ce soit droite, gauche, ceci... Moi, je pense que ça, ce n'est pas de l'ordre de la citoyenneté de parler de ça. Par contre, de dire que ce n'est pas suffisant, ça, c'est clair qu'aujourd'hui, 950 euros est le seuil de pauvreté. Donc, tout ce qui est en dessous de 950 euros est insuffisant. Voilà, point. Après, ce qui est intéressant de dire, c'est que si on peut générer 400 euros déjà,
commencer par 400 euros, on peut, ça peut être de droite, de gauche, peu importe, en tout cas, c'est déjà un bon début de se dire que d'apprendre à déconnecter un revenu d'un travail, ce qui est déjà un grand pas, mais qui est insuffisant.
Alors, parce que s'ils donnent ces 400 euros, où est-ce qu'ils vont les prendre? En enlevant quelle
Les allocations familiales.
Est-ce que c'est pas celle d'Angers?
Là, souvent, disait, c'est l'économiste qui a dit on peut actuellement donner 400 euros à tous les Français.
On le prendra d'autres.
Non, je ne te demande pas là.
La création monétaire.
Non, c'est en supprimant la CAF, mais sans toucher, ce qu'on a bien dit quand même, on ne touche pas ni aux allocations logement, ni au chômage, et ni aux retraites, ni à la Sécu. Il y a l'argent là, l'argent est suffisant. L'argent est déjà là. Et alors après, le truc qu'il faut voir aussi, pour arriver à le mettre en place, il y a des stratégies qu'on doit faire. Donc peut-être des stratégies de ruse. Si déjà on peut rentrer, mettre un premier pied, après voir comment. Mais pas, c'est après à nous, citoyens, de dire on le met là, on commence comme ça, mais petit à petit, on trouve les autres modes de financement pour l'augmenter rapidement. Ça, c'est évident.
On va demander à la droite de nous aider, ils vont le faire.
On tourne. Dominique. On va essayer de faire ça en partageant toi, Gégé, Marie-Pierre, la dame devant toi.
Déjà les 900 euros, on parle de 900 euros, mais ça vient d'où aussi cette somme? Parce que on peut vivre autrement avec aussi. Tout dépend d'où ça vient.
Oui, et bien c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, c'est vrai que je suis allée très rapidement en vous montrant les divers modes de financement possibles. Donc c'est 400 euros déjà avec en répartissant différemment les aides qu'il y a actuellement pour l'argent et sans impôt supplémentaire déjà. Ensuite, en parlant le pourcentage sur la taxe Tobin. Hop, on pourrait peut-être avoir 100 ou 200 euros de plus. La TVA. La TVA sur les produits, ce que je disais, les produits qui polluent. On augmente. Quelques produits vont devenir très chers, oui. Ah, je pensais que vous me demandiez comment on les trouve, pardon. Non. C'est quoi votre question?
Sur quoi est basé que le revenu minimum est de 900 euros? Parce que pour moi, le revenu minimum n'est...
C'est pas un bon seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'on estime qu'actuellement, alors ça c'est fluctuant, parce que tout le temps.
C'est moi qui en ai parlé, je peux répondre.
Alors, du revenu médian.
Voilà, 60% du revenu médian. Alors, avant on disait 50% de revenu médian. C'est-à-dire que le revenu médian, c'est qu'il y a autant de gens qui gagnent au-dessus que de gens qui gagnent en dessous. C'est ce qu'on appelle le revenu médian, qui est de l'ordre de
1650.
Voilà. Et donc. Avant, il y a une époque, on fixait le seuil de pauvreté à 50% de ce revenu médian. On s'est rendu compte que c'était pas bon, donc c'était vraiment, vraiment la pauvreté, hyper pauvreté. Et on s'est rendu compte que 60% du revenu médian, ça correspondait à un seuil de pauvreté. Voilà. Après, ça, ce sont des études de longue date et qui sont quand même 950 euros aujourd'hui en France. En effet, vous faites le test, vivez avec 950 euros, c'est dur, mais et ça va, vous arrivez à survivre. Si vous avez moins, vous êtes dans la pauvreté. Ça s'appelle la pauvreté.
Donc,
tout à fait, oui. Mais c'est une moyenne, hein. Une moyenne, revenu médian. Voilà.
Oui, bien sûr, on peut vivre avec moins si on réduit ses besoins.
Gégé, Marie-Pierre et
Alors, 60%, c'est en France. Sur l'Europe, c'est 50%.
D'accord.
Alors, je n'étais pas trop d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, droite et gauche, ni avec... il me semble que vous avez oublié un des systèmes prôné par la décroissance, qui est la dotation inconditionnelle d'autonomie, et qui est lié, et c'est en ça que ça me paraît être de gauche, au revenu maximum admissible. Ils sont inséparables. Ils sont inséparables. Et là, du coup, il n'y a plus tous ces problèmes de revenus. Est-ce qu'on accepte des écarts comme il y avait il y a 30 ans de 1 à 40, ou de 1 à 400 comme aujourd'hui, ou 1 à 10, ou 1 à 4 comme il propose. Il y a ce premier problème qui est intéressant. Il y a le deuxième problème qu'il soulève et qui me paraît également très intéressant. Comment on va partager les travaux pénibles? J'entends les travaux pénibles, ça peut être aussi bien le ramasser des ordures que la toilette des morts, des vieux dans une maison de retraite. Comment on va faire? Soit on réévalue, soit on tire au sort, soit on fait des rotations. Et ça me paraît vachement important. Ensuite, j'ai encore deux choses à dire, puis après je m'écrase. En ce qui concerne le référendum qu'il y a eu sur l'Europe, ça s'est pas très bien passé. Il n'y a même pas eu un tiers des 1 million de voix.
Oui, mais ça, je vais vous expliquer pourquoi.
Oui, mais il y a eu un tiers des... Et la dernière chose que je vais dire, c'est que toutes les propositions comme ça d'aide, de financement, de circuit court, etc., ne passera pas s'il y a le partenariat transatlantique qui est en train de se traiter. Et ça, tous les débats, à mon avis, tous les débats qu'on doit avoir, c'est dire est-ce que ça serait possible avec ce partenariat transatlantique ? S'il est signé, c'est même pas la peine. On perd du temps à discuter de tas de trucs comme ça.
Alors, par rapport au revenu maximal, moi j'ai fait une conférence débat avec Stéphane là, pour la dotation autonome et, là, à Toulouse, donc on s'entend très bien. Hein. Alors, ils font partie du mouvement du revenu de base, parce qu'on est d'accord sur la définition, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Seulement, eux, ils rajoutent des choses en plus, si vous voulez, dont le revenu maximum. Ouais. Alors, pourquoi pas ? Moi, personnellement, je me dis que rajouter trop de conditions dans l'état où on est, des mentalités actuelles, si vous voulez, j'ai peur que ça fasse fuir plein de gens en disant ben, non, on ne veut pas. Si vous mettez le revenu maximum, on ne veut pas du revenu de base. Par contre, si on ne le dit pas tout de suite, ben, voilà, on l'instaure et puis après on verra, voyez. Alors, sinon, on ne nous laissera pas faire. On ne nous laissera pas mettre le revenu de base en place. Et voilà, ben, bon, vous voyez, c'est mon idée, ça, une stratégie. Il y a des stratégies de ruse pour ne pas avoir besoin d'aller couper les têtes à tout le monde. Si vous dites qu'on met un revenu maximal, il y a vraiment des gens qui vont être farouchement opposés. Là, ils ne nous laisseront pas passer.
Ils sont une minorité.
Ils ne nous laisseront pas passer. Oui, mais ils sont une minorité qui a un pouvoir énorme.
Et oui.
Voilà. Donc là, ils ne nous laisseront pas passer. On n'arrivera pas à faire passer le revenu de base. Ça, c'est l'idée que j'ai de stratégie. Voilà. Je ne suis pas opposée à l'idée. Hein, comprenez bien. Voilà. Ensuite, au niveau, par rapport aux travaux pénibles. Alors là, on y a réfléchi plein de choses. Donc, le revenu de base permet justement, donc déjà de travailler moins, donc les travaux pénibles, on peut peut-être les faire plus qu'à mi-temps, tiers de temps, quart de temps. Ensuite, la question qu'on nous pose souvent, mais si vraiment même plus personne veut les faire, même ne serait-ce que 2 heures, mais dans ce cas-là, si c'est obligatoire, on va réévaluer, ça va nous interroger. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce service ou de ce travail-là ? Si oui, on en a besoin, comme le ramassage des ordures, mais on va s'organiser. Donc là, on va être obligés tous d'en prendre en charge une partie et de le faire. Ou alors de vraiment le payer très 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 cher pour... Voilà, ça c'est après des... Ça va obliger aussi des négociations et renégociations entre employeurs et employés aussi. Ou aussi robotiser, de plus en plus on robotise les tâches. Voilà, donc on pourrait taxer le robot. Il y en a qui disent il est temps de taxer le robot. Pourquoi pas aussi. Non, je rigole. Mais pour le ramassage des poubelles, il y a déjà des choses automatisées. Hein, ça existe déjà. À part celui qui conduit, il faut quand même conduire le camion. Encore. Pour l'ICE, vous dites bon, 300 000, c'est rien. Pour moi, je peux vous dire que je suis à l'origine hein, de l'ICE. Enfin, pas moi toute seule, on est une trentaine. Et je fais partie du groupe d'origine sur ça, avec lequel on a planché à Bruxelles. Et on n'était pas naïfs. Hein, on savait très bien qu'on n'allait pas avoir un million. On savait très bien parce qu'on part de très loin. Parce que le revenu de base n'est pas connu. Et on s'est dit, avec ça, ça va nous donner une position officielle. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a entraîné des pays qui ne connaissaient même pas le revenu de base, comme la Slovénie, la Slovaquie, la Grèce, plein de pays de l'Est qui se sont impliqués dessus. En France, il n'y a jamais eu autant de groupes locaux en France qui se sont montés, de gens qui se sont engagés là-dedans, qui sont partis enthousiastes, parce qu'il y avait cette fameuse initiative citoyenne européenne qui a boosté l'énergie et qui a fait décupler le truc. Voilà. Et pour nous, c'est une réussite, parce qu'il y a un mouvement qui est en train de s'organiser à l'échelle de l'Europe. En Espagne, on n'a jamais autant entendu parler aussi de Renta Basica. Enfin, c'est, voilà. On savait très bien qu'on n'allait pas avoir un million parce qu'on partait trop loin. Voilà. Et puis par rapport à TAFTA, ouais, je sais, c'est un gros problème. Je n'ai pas la solution là.
Moi, je peux en parler. Hein, je connais bien ce problème. Alors, c'est lié TAFTA et les revenus exorbitants. C'est la même chose. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on a un argent dette, c'est-à-dire que l'argent est créé par un crédit, et qu'aujourd'hui on est surendetté et que donc on ne fait plus de crédit, donc il n'y a plus d'argent qui rentre dans notre société, puisqu'il n'y a plus personne ne fait de crédit, et par contre on rembourse nos crédits. Donc comme on rembourse nos crédits, on fait baisser la masse monétaire, puisque tout argent remboursé fait disparaître l'argent. Hein, on fait un crédit, l'argent rentre, on rembourse nos crédits, l'argent sort. Jusqu'à maintenant, il y avait toujours plus de crédits que de remboursements qui faisaient que la quantité d'argent disponible pour nos échanges augmentait. Or là, crise 2008 fait qu'on est surendetté, on rembourse et donc l'argent baisse. Donc forcément, On crève. C'est la crise, ce qu'on appelle une crise. La masse monétaire baisse parce qu'on rembourse plus qu'on crédite. Donc, comme on ne change pas encore l'argent de dette, qu'on est toujours en argent de dette, TAFTA va être obligatoire. Je peux vous dire qu'on a besoin, pour survivre, qu'il y ait du crédit. Or, qui c'est qui peut faire du crédit? Les plus riches. Les multinationales. Donc, TAFTA, c'est l'empire des multinationales. Donc, là, on est dans une impasse de notre système d'argent de dette qui fait qu'on est dépendant pour survivre. On est dépendant du crédit des autres. Qui fait les crédits? Alors, jusqu'à maintenant, tout le monde pouvait en faire plus ou moins, mais maintenant, c'est fini. Il n'y a que les riches qui peuvent en faire. Hein, donc, et les très riches, tout à fait. Donc, on dépend complètement de TAFTA, finalement, et de tout ce qui, possibilité de générer du crédit. Donc, lutter contre les grands revenus et lutter contre TAFTA en disant « il faut pas », c'est complètement absurde. Ce qu'il faut, c'est...
Vivre autrement.
Non, il faut changer le crédit dette, l'argent de dette. Il ne faut plus créer l'argent par la dette, il faut créer l'argent par le revenu de base. Créer l'argent par une base est la solution, mais de toute façon, on y viendra forcément. Alors, est-ce que c'est dans 50 ans ou dans 10 ans ou dans 100 ans? Je ne sais pas. En tout cas, alors, tous les économistes, on va dire, aiguisés, comme par exemple notre cher Gérard Fouché et d'autres, sont bien conscients que l'argent de dette est la cause, c'est la cause des causes socio-économiques. Donc, tant qu'on ne changera pas cet argent créé par le crédit, on sera toujours dépendant des plus grands riches. Ça ne servira à rien de dire qu'il faut leur couper la tête. De toute façon, si on coupe la tête à un riche, forcément, ce sera un autre qui prendra le
relais. Gégé, vous voulez intervenir?
TAFTA, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un problème de normes, simplement. À 90%, ce sont... Si, exactement.
C'est faciliter le crédit.
Le problème des normes, c'est-à-dire les OGM, le bœuf aux hormones, le porc à la ractopamine, c'est une histoire de normes, simplement. Et sur...
Oui, mais derrière...
Je vais vous couper là, je vous invite de revenir dans exactement un mois
pour avoir une question.
Bah, avant un mois, dans trois jours, on fait encore un travail sur le TAFTA.
Oui, alors, on va parler exactement du thème de TAFTA.
C'est important, TAFTA, il a raison. Il faut la dénoncer et en parler, parce que aussi les citoyens sont pas au courant de ce truc-là.
Tout à fait à propos.
J'aimerais bien donner la parole à ceux qui voulaient intervenir. Il y avait Marie-Pierre, il y avait Catrice, il y a...
Oui, moi, ce que j'aimerais entendre, c'est pour le revenu de base, pour éradiquer la pauvreté, que bon, ça, c'est la base. Mais après, une fois que le revenu de base est instauré, on parle de transformer la société, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va permettre, dans quel but, pourquoi on veut ça, pourquoi faire, voilà. Et ça, je ne l'ai pas entendu encore.
Ah, mais alors, parce qu'il y a plein de...
Alors, j'ai entendu des brides de réflexion, mais pas rien de très...
Une question pour avoir une idée de l'ampleur du projet. 1000 euros par mois par personne. Est-ce que vous avez évalué pour les 65 millions de Français le montant annuel de ces revenus?
Une troisième question derrière, et après on vous donne.
C'est à moi?
Oui.
Moi, je voulais juste. En fait, ce que je veux dire, c'est que même si TAFTA il passe, et quand bien même ça passe, il n'y a aucune raison d'avoir peur, parce que la pensée, elle est quand même créative. Ça ne nous empêche pas de nous continuer à penser comme vous dites. On ne sait pas quand ça viendra. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, avec un revenu minimum, à partir du moment où on sort de la survie, là, on peut commencer à créer. Quand on peut commencer à créer, on a du pouvoir, on prend son destin en main. Et il y a beaucoup plus de gens qui, justement, n'ont pas cette mainmise à la fois, qui ne sont pas dans les grands revenus. En ces gens-là, il y en aura suffisamment qui pourront prendre leur destin en main. Les autres, ils vont envie de dégager, hein, à mon avis. C'est juste une question de voilà.
Le temps. Ouais. Alors oui, mais voilà, elle vient de répondre une partie sur la vision. Parce qu'en fait, voilà, les visions, il y en a des multiples, hein, de visions de société, mais voilà, c'est ça, ça dégage du temps pour créer, pour prendre le temps de créer une nouvelle société pendant que l'autre s'effondre, en fait. Il y en a une qui est en train de s'effondrer et une nouvelle qui se lève. Et le revenu de base, c'est un outil, c'est un levier, en fait. C'est un levier qui va nous permettre. Il y a déjà plein de gens en route, hein, parce que vous êtes déjà dans les milieux militants, vous le savez bien, tous ceux qui partent des agriculteurs bio. ce qu'on appelle aussi maintenant la nouvelle économie collaborative, de partage. Il y a plein de gens, des jeunes, voyez, qui sont embêtés parce que justement ils leur manquent de l'argent, qui partent sur des trucs incroyables, la fabrication de petits robots pour empêcher les pesticides, des sites de partage où on partage tout, les voitures, des machines à laver, où les gens reviennent chez les jeunes, chez les autres pour faire les machines. Chez les étudiants, ça marche bien, ça, chez les jeunes. Ils ont beaucoup moins la notion de propriété, par exemple. Une voiture, à un certain âge, c'est sa voiture, on la prête pas trop, tout ça. Là, les jeunes, terminé, c'est une voiture. Non, mais je dis pas vous, hein.
Ah ben non, parce que moi, j'ai partagé la mienne avec un jeune homme pendant 4 ans.
Je dis pas vous, hein. Voilà.
Mais... J'ai partagé ma voiture pendant 4 ans.
Parce que vous avez le covoiturage, vous avez aussi maintenant des gens qui partagent leur voiture. C'est-à-dire qu'ils ont des voitures à plusieurs dans le voisinage.
Ça, c'est que dans les grandes villes.
Oui, je sais bien, mais si vous saviez, il y a une puissance de création pour ça. On les a, les solutions. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est bloqué, on empêche tout le monde de les faire. Et dans la culture aussi. Il y a des journalistes maintenant qui essaient de se lancer, de faire par Internet. Donc ils ne rentrent plus dans le journal papier qui coûte cher, etc. Mais ils n'arrivent pas à vivre. Donc ils tiennent le coup, le temps d'avoir le chômage, un an, 2 ans, parce qu'on dit, on vous donne le chômage, le temps de créer, mettons une entreprise. Mais si ça ne démarre pas dans les 1 an, 2 ans, terminé, quand il n'y a plus le chômage, il n'y a plus d'argent. Donc paf, tout le monde abandonne et on repart pour aller trouver un boulot qui fait. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à changer la société. Tandis qu'avec ce revenu de base, justement, on espère que ça permet de souffler. De toute façon, avec ça, je ne vais pas mourir. Cette sécurité qu'on n'a pas en ce moment. Et avec ça, je vais pouvoir enfin créer et donc faire de nouvelles richesses. Alors ça laisse la liberté dans ce qu'on dit. Nous, on laisse effectivement une grande liberté aux gens. On mise sur la confiance, les réseaux de confiance, cette économie de partage, de collaboration. Alors peut-être qu'il y en a qui vont faire des choses horribles avec aussi. Mais ça, au revenu de base, c'est pas ça qui va changer l'être humain. Hein.
Bon, voilà, ça ne va pas acheter de la drogue à
l'heure. Eh bien oui, peut-être, mais alors, tant pis.
C'est très important cette question de à quoi ça sert d'avoir une base. Hein, on l'a dit, donc plus de pauvreté déjà, c'est quand même énorme. Hein. C'est même essentiel, plus de pauvreté. C'est ça, il faut se le dire. Hein. Moi, je vois tous les partis politiques dans lesquels je vais. Ils ont tout ça comme leitmotiv, mais finalement, ils ne luttent pas contre la pauvreté. Ils essaient de la gérer. Donc, le revenu de base, vraiment, lutte, enlève la pauvreté. Si tout le monde a un revenu suffisant, il n'y a plus de pauvreté. Donc déjà, c'est énorme, ça nous permet de réfléchir, donc de développer des activités. Et ce qu'il y a de particulier à la création d'un revenu de base, enfin, de la création monétaire par revenu de base, c'est qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour avoir l'argent, je dois faire un crédit. Donc forcément, le banquier va me prêter de l'argent que si j'ai une activité qui, évidemment, qui rémunère de l'argent, donc prédatrice. Forcément, pour pouvoir faire un emprunt, je dois être capitaliste, obligatoire. Si on enlève cet argent de dette et qu'on crée l'argent par le revenu de base, je me retrouve tous les mois avec 1000 euros, plus mon activité, si je veux, un travail qui va me rémunérer, mais je ne vais pas être obligé de développer une activité prédatrice. Je vais pouvoir, avec mes 1000 euros par mois, développer une éolienne, un moteur à eau, enfin, développer quelque chose qui n'aura pas besoin de créer de richesses. Par contre, je vais pouvoir enfin créer quelque chose de ce qu'on appelle d'utile et fonctionnel. Hein, l'économie, on va pouvoir passer de l'économie de marché, qui aujourd'hui est complètement hégémonique, on va pouvoir enfin passer à l'économie d'usage et de fonctionnalité, c'est-à-dire l'économie circulaire. L'échange, la location... Le don, l'échange de dons, l'échange de gratuité, c'est énorme ça, ce changement de paradigme, il est énorme quoi. Et alors il n'est pas encore assimilé, je le vois bien, mais il est fondamental. Changer notre économie, c'est quand même ça le but aussi. Si c'est juste qu'il n'y ait plus de pauvres, mais qu'il y ait quand même une économie, on va dire, prédatrice, il n'y aura plus de pauvres, mais la planète elle va crever. Alors que si on enlève l'argent de dette, et qu'on crée l'argent, alors le crédit restera possible, mais que sur de l'argent épargné, ça c'est vrai que les banquiers, ça va les étonner, ils vont devoir aller chercher, récolter l'épargne pour pouvoir donner du crédit. Alors qu'aujourd'hui, il faut savoir que tout argent crédité, hein, que la banque vous prête, ce n'est jamais de l'argent épargné, contrairement à ce qu'on croit tous. Ce n'est que de la création. Ce n'est jamais de l'argent épargné qui est prêté, jamais.
Donc là, ils seront obligés de faire le travail qu'on croit tous que font les banques, c'est-à-dire d'aller chercher à récolter l'épargne pour prêter aux gens qui ont un projet. Donc le crédit restera possible, mais il ne permettra plus de créer l'argent. L'argent sera enfin créé par l'existence humaine. C'est quand même fondamental. C'est que là, l'argent devient enfin humain, quoi, un outil lié à la vie, et non pas aux besoins de prédation. Enfin, je ne sais pas si je suis assez compris. Mais...
On n'a pas répondu au monsieur, là. Oui, qui, oui, bien sûr, ça a été calculé, là, 400 euros, 1000 euros, bien sûr. Oui. Alors, bah, vous faites 1000 multiplié par, on est combien, 64 millions
65.
Par mois, quasiment. Ouais, moi, j'ai pas calculé, je trouve par an 780 milliards d'euros.
Ouais.
Je le trompe sûrement ou pas, mais ça, vous parliez de la facilité de financer le système. Je pense qu'il faut prendre conscience que si c'est ça, c'est pas rien. Et donc je comprends que les hommes politiques de l'extrême gauche à la droite réfléchissent à assumer. Voilà, c'est simplement.
Oui, bien sûr, oui. Mais on s'aperçoit, je veux dire, les économistes qui ont bossé dessus ont les solutions. Ah non, après, il faut aller plus loin, mais.
Pas pour chaque habitant du pays, de toute façon.
Si, si.
Ah, si. Ah, mais si.
C'est que pour les immigrés. Et si, c'est ça, là, parce que tu ne prêtais pas de malentendu. Hein. C'est pour tous les citoyens. C'est inconditionnel, universel.
Non, mais c'est vrai, il y en a qui ont déjà la chance.
Oui, non.
Je peux répondre au monsieur, là. C'est que c'est donné à tout le monde, mais la fiscalité récupère à ceux qui n'en ont pas besoin. C'est ça le but de la fiscalité. Et c'est pour ça qu'on le donne à tout le monde. Sinon, on discrimine les pauvres par rapport aux riches. Donc le calcul, il ne marche pas comme ça.
Alors certains aussi, dans certains calculs d'économistes, il y a aussi, je n'ai pas parlé, mais il y a aussi un impôt sur le revenu qui sert pour le revenu de base, donc taxé sur les plus riches.
Non, mais ça veut dire que c'est attribué à des gens qui n'ont... sont dans la pauvreté.
Non, à tous.
Même les riches, ils ont des endroits. Puisque le fisc le récupère.
Oui, mais ça veut dire qu'un riche peut être ruiné, et bien il aura son revenu de base. C'est un citoyen, il de la naissance à la mort.
Mais il risque rien, lui.
Je ne comprends pas.
Mais votre problème, c'est qu'il y ait des gens riches ou qu'il y ait des gens pauvres?
On n'a pas mon problème, c'est de comprendre le projet. Je trouve ça très bien. Et alors, j'ai lu Oncle Bernard, Bernard Maris, en parle comme de quelqu'un, quelque chose de très intéressant.
Oui.
Je viens pour essayer de comprendre.
Oui.
Et moi, je calcule 780 milliards pour le budget de la France, qui fait 1100 milliards, je crois. Hein. Donc, si effectivement, on récupère chez les gens qui ne sont pas pauvres, ça se comprend. Mais alors, on ne dit pas que c'est attribué à tout le monde. C'est attribué à tout le monde, mais on le
oui, mais oui, on prend aussi sur les pauvres.
Ça veut dire qu'il va y avoir des frais de comptabilité qui vont, vous parliez de 200 euros pour 400 de salaire. Et bien là, on va rajouter de la comptabilité.
Non.
Le système d'impôt existe, et les fonctionnaires liés à ça existent, les dépenses pour ça. La preuve, c'est qu'à l'heure actuelle, on fait même des dépenses pour essayer de récupérer de l'argent évacué à l'étranger. Donc on sait que ça va rapporter, d'avoir fait cette dépense de fonctionnaire pour aller récupérer l'argent en Suisse, ça va rapporter. Donc
l'essentiel de la population qui est dans le seuil de pauvreté, pour le récupérer. Donc c'est un système qui me paraît étonnant.
Non, parce que c'est un peu fluctué.
Et là, c'est un droit universel et inconditionnel pour tout citoyen. C'est un nouveau droit citoyen. Et même le petit-fils Bettencourt, il a droit. Ça peut paraître choquant, mais oui, voilà. C'est ça le principe.
Moi, je voudrais juste te dire, moi, je touche 587 euros par mois. Je serais bien contente d'avoir le revenu de base. Mais ce n'est pas pour autant que je reproche à quelqu'un d'être riche. Je pense qu'en France, il y a un problème par rapport à ça. C'est qu'on a, un problème par rapport à la... Je ne sais pas comment dire, pas à la richesse, mais en fait, aux gens qui aiment bien vivre, qui ont des besoins extraordinaires. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, je détermine mes besoins. Si les autres en ont plus, eh bien, ils en ont plus. C'est une autre logique, quoi. Mais moi, la priorité, c'est mettre fin à la pauvreté. Après, le reste, tant mieux si les gens sont riches et si ça leur fait plaisir. Si ça leur fait pas plaisir, ils travailleront pas.
Voilà, il y avait Dominique et la dame.
Exactement. Il y a un tabou par rapport à l'argent en France. Ouais. Il y a un vrai tabou.
Les pauvres défendent les riches.
Dominique et la dame.
Oui, votre création monétaire, vous créez de l'argent. Est-ce que c'est une monnaie fondante? Si elle n'est pas fondante, ça va créer de l'inflation à un moment. On crée de la monnaie tous les mois et ça va. Et deuxième question qui va avec, c'est est-ce qu'une monnaie locale ne pourrait pas justement être créée pour répondre à cette question? Et monnaie locale fondante, bien sûr.
Ah oui, ben alors,
la monnaie locale...
Tu le diras quand tu seras bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres interventions?
Alors, sur l'inflation par rapport à la création monétaire, alors là, c'est vrai qu'on est un peu avec 1 000 euros en création monétaire. Actuellement, quand même, ceux qui réfléchissent dessus, donc Gérard Fouché et Stéphane Laborde, ne sont pas un montant si haut en création monétaire. Ils sont un peu plus bas, bien plus bas, parce que pour régulariser et qu'il n'y ait pas trop de masse monétaire à la fois, effectivement. Par contre, l'inflation, si on part du principe que quand même le revenu est suffisant, c'est pour ça que moi, plus ça va, plus je table sur un mixage de 2-3 possibilités, à voir lesquelles, hein, de financement. À partir du moment où les gens se mettent à créer de nouvelles richesses différentes, hein, de produits, services utiles ou des besoins que l'on a vraiment, parce que du travail, on n'en manque pas en fait. On manque de c'est le travail qui n'est pas rémunéré, mais du travail, qu'est-ce qu'on a besoin d'inventer actuellement pour sortir de toutes les difficultés que l'on a? On a besoin de créer plein de choses nouvelles, hein, des services nouveaux, complètement différents de ce que l'on a. Et plus on crée d'offres différentes et de nouvelles richesses respectueuses de la vie et de la nature, hein, l'inflation, c'est quand l'offre se diminue. Mais là, si l'offre...
Là, c'est la croissance à tout va.
Non. Pourquoi voulez-vous que ce soit une croissance? On a besoin de faire plein de choses, mais pas obligatoirement, en calculant, comme on est, avec la croissance, l'emploi et le PIB. Voilà, on peut changer. On est dans un autre système, là, dans ce cas-là.
Voilà. Alors, moi, pour répondre à ça, c'est très important. D'abord, qu'est-ce que c'est la croissance? Est-ce que c'est nous qui voulons, nous, les citoyens, est-ce que nous, vous voulons croître? Non, la croissance vient justement de l'argent de dette, c'est-à-dire du besoin toujours d'avoir plus, ce que je disais tout à l'heure, plus d'emprunt que de remboursement. Le système, forcément, c'est une masse monétaire. Tout crédit fait augmenter, tout remboursement fait baisser. Donc forcément, on a besoin toujours qu'il y ait un peu plus de crédit que de remboursement. Hein, donc on a toujours besoin, on va dire, d'une augmentation légère, en tout cas... Quand c'est équilibré, c'est léger. Hein. C'était comme ça pendant quelques temps. C'est-à-dire qu'on avait un peu plus de crédit que de remboursement. Donc tout va bien. Mais à partir du moment où, quand les gens ont fait beaucoup d'emprunts et que se mettent à rembourser, c'est la crise. Donc la notion de croissance, elle n'est pas due à la citoyenneté. Elle est due à l'argent de dette spéculatif, c'est-à-dire des banquiers qui ont besoin toujours de créer de l'argent en faisant, en prêtant à dans des domaines qui vont forcément générer de l'argent en retour, hein, qui vont être donc prédateurs. Donc l'inflation, elle n'existe qu'à un seul moment, c'est quand il y a plus d'argent. L'inflation n'existe que dans des bulles, d'ailleurs. N'existe pas. Si tout le monde a plus d'argent et consomme plus, il n'y a pas d'inflation. Si j'ai plus d'argent et que je la dépense autant que je la gagne, ça ne s'appelle pas une inflation. Même si on me donne 3000 euros par mois gratuit, mais que je consomme 3000 euros, ça ne crée pas d'inflation. L'inflation existe quand il y a une élévation de la masse monétaire et un abaissement ou en tout cas un accroissement plus faible de la consommation. C'est-à-dire que je n'achète pas et que j'ai plus d'argent, et bien les prix montent. Ça, c'est une logique. Or, le revenu de base en création monétaire, c'est justement, il est juste suffisant. Donc, on ne crée pas beaucoup d'argent, c'est juste suffisant pour vivre. Et à chaque individu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de bulle spéculative, puisque chacun s'est dilué dans la société. Les inflations existent toujours. Toujours, depuis, on veut analyser les inflations, elles n'arrivent tout le temps à une seule fois, c'est-à-dire quand il y a une rentrée d'argent en grosse quantité dans un domaine particulier, spéculatif, l'immobilier. L'immobilier, c'est l'exemple typique, c'est ce qui a créé d'ailleurs 1929, 2008. Toutes les grandes crises sont liées à des bulles spéculatives, inflationnistes, immobilières. Mais à partir du moment où vous diluez cet argent, au contraire, la création monétaire, en revenu de base et anti-inflationniste, ne peut pas créer d'inflation puisque justement l'argent se dilue et c'est nous qui le dépensons. Ce n'est pas un banquier qui choisit où l'argent va aller.
Et alors, pour répondre aussi à la monnaie locale, là, oui, mais alors, une partie pour relocaliser l'économie dont on a besoin qu'elle soit relocalisée, ça peut être bien qu'il y ait 20-30% mettons, de cette somme de 1 000 euros, pourquoi pas, monnaie locale. Mais pas tout. Parce qu'après, on garde quand même la liberté, si on a envie d'aller ailleurs. Et puis, il ne faut pas le penser aussi, le revenu de base, on a tendance à le penser, là, en France, comment ça va se passer. Mais on n'est pas tout seul. Il y a d'autres pays européens, on espère qu'ils vont le mettre en place peut-être en même temps. Et en ce moment, il y a l'Inde, il y a des pays d'Afrique du Sud, je ne vous ai pas dit, mais il vient d'avoir un grand symposium avec 15 pays du sud de l'Afrique, dont l'Afrique du Sud, qui sont en train de plancher sur le revenu de base. On en parle en Corée, on en parle au Japon. Au Japon, ils en ont parlé au Parlement. Oui, donc, nos échanges, imaginons qu'ils le mettent en Chine, où tout se fait en ce moment, tout est délocalisé en Chine, hein, tous nos biens, la surconsommation. Imaginons qu'ils mettent le revenu de base en Chine. Je peux vous dire, ça va changer énormément. Ça va changer aussi toutes les relations internationales et nos façons d'échanger nos services en commerce et production. Parce que c'est libre.
On peut regarder le même. Revenu de base en monnaie locale pour là et le revenu du travail en monnaie européenne.
Mais pourquoi pas? Oui. Mais là, on est tous invités à réfléchir à tout ça. Rien n'est figé dans le marbre pour le moment. C'est ça qu'il faut se dire pour le revenu de base. Rien n'est figé. L'idée, elle est là et après, à chacun de s'en emparer et de voir les solutions.
Dans les propositions des décroissants, il y a l'utilisation des monnaies locales, justement.
Oui, aussi.
Chose qui sera attaquée par le PPCI, mais on s'en fout pour l'instant. Après, l'histoire de la masse monétaire, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a eu des milliers de milliards qui ont renfloué les banques, là, mais ils sont allés dans la spéculation, et combien l'inflation en ce moment? Il n'y a pas d'inflation. Donc on va... Elle est combien en ce moment, en France?
Alors, l'inflation,
attendez,
pas.
Je continue.
Elle existe dans des bulles. Il y a une inflation immobilière terrible. Je vais vous dire, elle est à Paris, vous allez voir.
Je continue. L'inflation est très faible en ce moment parce que l'argent a été sur les marchés financiers, dans les marchés d'échange, etc.
Et ça
ne rentre pas dans le calcul de l'inflation. C'est avant le panier de la ménagère.
Ouais.
Mais
ou des ménagers.
Oui, non, c'est exprès pour tous les ménagistes.
De moins de 50 ans.
Il y a plus de 3 secondes, ils sont dormis. Par contre, comment ça se passe? Je crois qu'il faut passer par la décroissance. C'est l'histoire de la création de l'obsolescence programmée, des chaussures, on utilise des bagnoles qui
circulent
automatiquement, des fourchettes avec de l'intelligence embarquée. C'est là. Moi, je crois que le départ, c'est pas tant la création monétaire, c'est revoir tout notre système sur la décroissance.
Tout va ensemble.
Et oui, justement. Alors moi, je suis totalement pour la décroissance. Et justement, Gérard Fourché est un décroissant. Tous ceux qui développent la création monétaire, justement, en revenu de base, sont des décroissants. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que, justement, ça ne s'oblige pas, la décroissance. C'est impossible. C'est encore un dogme, de croire que il faut décroître. Mais non, c'est si tu me donnes les moyens de décroître. Et la création, justement, si j'ai un revenu de base en création monétaire, c'est que j'ai 1 000 euros sans avoir à les rembourser, ça s'appelle de l'argent sans dette, je vais pouvoir, ce que je disais, développer l'économie circulaire, l'économie d'usage et de fonctionnalité, ce qui est la définition de la décroissance, c'est-à-dire de créer des objets pour qu'ils soient échangés, durables, et qu'ils respectent l'environnement. Je vais pouvoir enfin développer ça, puisque je n'aurai pas besoin de puiser dans mes échanges pour rembourser un argent endetté. Justement, alors par rapport à la...
C'est remboursé par l'impôt, peut-être.
Alors par rapport à la monnaie locale, il faut savoir que la monnaie locale aujourd'hui, celle que je vous ai donnée là, elle a disparu, on m'a volé un sol. Et ce sol, il est indexé, ce n'est pas une création monétaire, c'est de l'euro. C'est un argent de dette. Alors ça, qui est sorti maintenant de la spéculation, il ne peut plus être spéculé, cet argent. Il est fondant. Mais c'est quand même issu, c'est-à-dire pour créer ce sol... Mais il a fallu forcément que...
Un euro dette égale...
La dette égale l'argent. C'est-à-dire que forcément, ce sol a dû demander un euro à être remboursé, plus un intérêt. Donc, la création... La monnaie locale, à partir du moment où elle est indexée sur l'euro, c'est-à-dire sur de l'argent de dette, n'est pas suffisant. Il faut absolument sortir de l'argent de dette en proportion, là je suis d'accord, ou totalement même, pourquoi pas.
La dame, moi je dis qu'il faut sortir du capitalisme pour que ça marche. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Parce que là, tel que vous parlez.
Comment?
Ah ben ça, c'est comme dit
Carole.
il faut s'y pencher. Parce que le revenu de base, comme on dit, la droite y pense aussi. Hein. Alors, moi, ça,
je crains. Ça quand même,
j'ai peur de TAFTA, comme dit Gérard.
Et je vous rassurez, pas tant que ça, quand même, la droite. Il y a quelques...
Non, donc moi je dis qu'il n'y a qu'une solution, c'est de sortir du capitalisme, hein, parce que sans quoi ça ne marchera pas.
Ben non, oui,
c'est Marx le premier le disait, on voit ce que ça a donné.
Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a jamais été mis en place. Alors, le communisme, ça n'a jamais existé.
L'argent dette existe depuis très longtemps, et c'est justement sortir de la... Juste, je finis pas. L'argent, non, mais sortir de l'argent de dette nous permet de sortir du capitalisme. C'est ça que je comprends. Non, mais c'est pour répondre à cette
position. Je pense, oui, et peut-être ça va nous permettre de sortir de la du clivage droite-gauche qui pollue un petit peu les avancées, quoi. Hein. Parce qu'on peut prendre tout ce qui peut être dit à droite de bien. Moi, je dirais même que dans l'immédiat, je serais pour Villepin. Je suis désolée. Si Villepin proposait ça, je voterais pour lui. Tout de suite, hein. Tout de suite.
Il propose l'impôt négatif. Euros, hein.
Oui, mais non, j'ai entendu qu'il proposait que tout le monde soit à 1500 euros.
Voilà, c'est ça. Mais c'est pas revenu de base, c'est pas inconditionnel.
Voilà. Mais je suis désolée. Je suis désolée.
Il ne propose pas que ça. Hein.
Oui, non, certainement. Mais enfin, je ne sais pas si vous êtes dans la précarité ici ou si on est dans des réunions mondaines. Je ne sais pas si vous savez, comme monsieur, ce qu'est la pauvreté, vraiment.
Non, si, si. Écoutez, si, madame, si, moi, ça fait 20 ans que je vis avec 900 euros par mois, hein, en moyenne.
Joël et Jean.
Je vais élever le débat. j'ai été un peu... ça me gêne qu'on parle de croissance, pour moi, dans un sens négatif. Pour moi, la croissance... ça serait une vie un peu plus humaine, un peu plus sociale. Et là, on serait dans une croissance. Et est-ce qu'on ne peut pas questionner aussi les mots qu'on emploie et pas se laisser dicter des mots qui ne nous conviennent pas? Et décroissance, ce n'est pas décroître que de vivre mieux et plus intelligemment.
Voilà. Est-ce que ça serait pas que je peux répondre
au bonheur intérieur brut?
Voilà, une autre façon de calculer les choses. Je suis bien d'accord avec vous parce que justement hier soir, on a eu un débat là, avec Michael et d'autres autour des revenus de base. Et à un moment donné, on est parti sur ce truc de vocabulaire. Et je me suis rendu compte que des fois, moi aussi, j'utilise des mots sur l'étymologie et sur le bon sens. Croissance, c'est pas négatif. C'est un beau, joli mot. Par contre, décroissance, c'est pas très beau. La sobriété heureuse, c'est quand même plus sympa.
C'est le fameux mot euro-bu.
Voilà. Ouais, je sais bien. Mais voilà. Et en fait, on les a détournés. Il y a plein de mots actuellement qui ont été détournés de leur origine. Et qui veulent dire le contraire de ce qu'ils veulent dire à la base. Et on s'embrouille avec les mots, ça, je suis bien d'accord.
Il faut les préciser à chaque fois.
Il faut préciser comment on entend le mot.
Voilà. Qu'est-ce qu'on entend derrière.
Exactement. Ouais. Jean.
Moi, en entendant tout à l'heure ce que vous disiez du revenu de base et de la liberté du travail, de faire ce qu'on a envie de faire, de rentrer dans un système social où effectivement on rend service, où le travail est accepté parce qu'on a choisi, on va dire. Voilà. Je me demande si ça n'existe pas déjà dans notre société. Est-ce que par hasard, le système des retraites par répartition n'est pas un moyen d'avoir un revenu de base? Et donc, au moment où on est plus obligé de travailler dans le système qui permettait effectivement au capitalisme de vivre, au moment où on n'y est plus obligé, on se rend compte qu'on est toujours aussi actif, qu'on a un problème d'emploi du temps même, souvent. Et donc, est-ce que par hasard, le système des retraites par répartition, alors peut-être faut-il que les cotisations de retraite ne soient pas prises sur une assiette qui est le salaire.
C'est pris sur le travail.
Voilà, c'est parce que c'est pris sur le travail. Peut-être faut-il les prendre ailleurs, le prendre ailleurs. Mais moi, il me semble de vivre à l'heure actuelle, parce que je ne suis pas dans la précarité comme... vous venez de le dire. C'est vrai, j'ai une retraite largement décente et c'est vrai que je ne me pars pas trop en ce moment-ci à faire des manifs pour les retraites. Bon, c'est vrai, parce que moi j'en ai largement suffisamment, donc, et j'en fais effectivement ce que j'en ai envie. Et je le fais partager par le fait que j'utilise ma puissance de travail à être avec les autres, à créer pour mes enfants, à créer pour des copains. Bon, voilà. Alors, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à creuser. C'est une étape de la vie. Quand on a la retraite, c'est qu'on a dépassé 60 ans ou 62 ans maintenant, et quelquefois 65 et 67. Voilà, et quelquefois 65 et quelquefois 67. Ça dépend encore. Mais je veux dire que cette portion de vie, me paraît être intéressante pour ça. Parce que dans cette portion de vie, on a l'impression de vivre quand même un petit peu ce que vous êtes en train de décrire.
Oui, c'est exactement
ça. Mais on est dans la revue de base.
Moi, j'ai pas dit ça. Moi, ce que je dis, le travail obligatoire, parce que quand même, on peut dire que dans notre société, il y a un travail obligatoire. Puisqu'on n'est plus, on n'est pas dans le revenu de base. Donc il y a un travail obligatoire. Mais une fois que ce travail n'est plus obligatoire, on s'aperçoit qu'on continue de travailler à produire des richesses. Quand on parlait du PIB tout à l'heure, le PIB ne prend jamais en compte tout le travail associatif qui est fait par les gens.
Et ça, il ne faut surtout pas
qu'il y rentre. Mais, qu'est-ce que
tu as dit ? Et le travail des femmes à la maison, le travail gratuit des femmes.
Mais il y a des hommes qui travaillent à la maison, ça, mais c'est gratuit aussi.
C'est minoritaire, bien sûr.
Oui, c'est peut-être une question de charme. Mais ça n'empêche que bon,
oui,
moi j'ai.
Vous savez que si le travail. Imaginons qu'il n'y ait plus de bénévoles, et donc beaucoup de retraités sont, on le sait bien, parce qu'ils ont le temps justement, sont dans des associations pour le travail. Donc, si ce travail bénévole n'existait plus, la société s'effondre.
Mais oui, tout à fait.
On ne fait pas le coup. Ça fait partie vraiment, et ça, c'est comme si tout ça ne serait pas prévu.
Or, on va dans le sens inverse. Justement, ça me fait penser, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes les subventions vers les associations. Quelle soit, pour s'occuper des gens qui sont au chômage, pour s'occuper de la culture, tout ça, toutes ces subventions sont en train de tomber. Et on s'aperçoit que la société est aussi en crise de ça. Arrive en crise de ça.
Après. Parce qu'elle ne rapporte pas. C'est parce qu'elle ne rapporte pas, elle ne permet pas de rembourser la dette, que, c'est que tout ce qui ne rapporte pas, forcément.
Ne rentre pas dans le PIB.
Je me permets de mettre sur liste de paroles aussi. Récemment, à la radio, j'ai entendu un reportage sur une étude des sociologues américains qui travaillent sur le développement du travail dans les prochaines 40-50 ans. Et avec l'augmentation de la productivité, le travail nécessaire va diminuer.
Déjà, il a diminué.
Mais ça va prendre des mesures dont on n'a pas idée. Et ces sociologues-là, dans leur rapport, préconisent un revenu de base pour tous, pour assurer la survie de tous ces gens qui vont se retrouver sur le carreau parce que leur travail va être fait par des robots.
C'est déjà le cas, la mécanisation a mis déjà les gens sur le carreau.
Oui,
les ouvriers au 19e siècle. Quand on a commencé à faire les premières machines, et ça, déjà on a enlevé de la main-d'œuvre. Un champ aussi, il fallait 100 personnes pour faucher un champ, un tracteur, c'est un type, ça suffit. Hein.
C'est pour ça que c'est un gros leurre
et ça c'est les politiques qui s'en servent non, ça, parce que comme ça ils préfèrent que les gens réfléchissent pas mais de dire que retrouver le plein emploi on peut y arriver tout, c'est un gros leurre c'est faux on ne retrouvera jamais c'est impossible
pour autant que les gens s'en souviennent monsieur Antoine Pinet ça nous ramène à au début du siècle dernier, avait compris que, de toute façon, on devenait tellement moderne, on devenait tellement productif, qu'on serait obligé de se lamenter de ne pas pouvoir donner du travail à tout le monde par notre richesse technologique. Alors, moi je veux bien qu'on soit là pour décrier les injustices. Je veux bien, il faut être réaliste. Il faut être réaliste, et je vous rappelle, M. Antoine Pinet, c'était au début du siècle dernier. Voilà. Alors là, on tergiverse, on se laisse amadouer par le discours politique, qui ne sont là que pour garder leur travail.
On parlait de la télé, hein, mais on n'est pas à la télé. C'est pas BFM TV ici. C'est... Mais là, ce que vous dites, c'est un constat.
Je prends référence à mes modestes connaissances, est-ce que M. Pinet ne disait pas?
Mais c'est ce qu'on dit. On a toujours rêvé, on s'est toujours dit, le jour où il y a des travaux pénibles pourront être faits par des machines, on va être libérés, on travaillera moins. C'est un rêve de l'humanité. Ça, on y arrive
maintenant.
On n'est pas libérés. Par rapport à ça, alors il y a une phrase de Marx qui a été très mal comprise, c'est qu'il parlait lui de qu'il fallait s'émanciper du travail. Et on a changé sa phrase en disant il faut s'émanciper par le travail. Moi, je vois beaucoup de communistes à travers les réunions qui me disent valeur travail, émancipation, travail. Bon sang. Donc je chamboule construction et tout. Mais non, c'est s'émanciper du travail. D'ailleurs, c'est le principe de l'économie, c'est s'émanciper du travail, c'est-à-dire justement pouvoir exister en tant qu'être humain libre. C'est pas le travail n'est pas une émancipation que s'il est choisi et encore.
Oui, mais est-ce que c'est. Excusez-moi. On travaille pour vivre.
Un jeudi en question, on avait fait un panneau sur justement la productivité et le partage du temps de travail. Je crois qu'il ne faut pas dire que quand on mécanise, qu'on robotise, que ça crée du chômage. Il faut dire simplement qu'il faut partager le temps de travail. Mais quand on voit qu'on travaillait 7 jours par semaine et 45 heures, etc., et on est à 35 heures, sans passer par... Keynes disait que normalement, 21 heures, on ne travaillerait même pas 20 heures. Donc c'est le partage du temps de travail, en écartant encore tous les travaux complètement inutiles dus à l'obsolescence programmée, etc.
Pourquoi les politiques, c'est la question qu'on pourrait se poser. Pourquoi ils freinent sur ça?
Mais ça, on en a parlé dans une question. Il faut un volant de chômeurs, ça a été calculé par les économistes, pour pouvoir écraser les salaires.
Voilà. Exactement. Voilà.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport au discours sur la robotisation. Je pense que ça peut vraiment améliorer le quotidien pour les tâches pallables, mais rien que dans le vocabulaire français. Quand on voit depuis un siècle les centaines de mots merveilleux qui ont disparu parce que les outils ont disparu, les gestes ont disparu, les métiers ont disparu. Et maintenant, c'est fait par des machines, mais tout le plaisir qui est lié aussi à ces métiers, toute la culture, la robotisation, pour moi, ça n'a pas amené que des choses. Enfin, voilà, ça diminue.
Ça dépend en quoi.
Rien
n'empêche, justement, les bases, les gens qui ont envie de coudre, de se remettre à coudre, en fait, de pouvoir en vivre, parce qu'ils vont pouvoir vendre beaucoup moins cher leurs produits, puisqu'ils ont revu de base, donc ils pourront faire une robe moins chère, de refaire du bijou, de refaire la poterie. Il y a plein de gens qui ont envie de faire ça, ça n'empêche pas.
Ah, c'est vrai.
Mais par contre, on a peut-être besoin de robots pour faire des trucs, des billes.
Repeindre une voiture, vaut mieux que ce soit un robot que d'avoir un
robot. Voilà, tous les trucs, partage.
Par contre, il faut une peinture qui dure 20 ans. Et là, on en revient à l'obsolescence programmée.
Mais ça, c'est le contraire, c'est le premier.
Ah oui.
C'est-à-dire que la voiture est calculée, l'obsolescence programmée, on en est là.
C'est parce qu'on est nombreux sur Terre, c'est pour ça qu'on a besoin des robots. On est très très nombreux. Donc c'est quand même. Ça fait beaucoup, quoi. Pour une fois un t-shirt chacun, là, mettons. Et on est tellement nombreux que tout le monde coude, il faudrait qu'on se fasse le même, on peut pas.
J'ai une petite remarque à faire là-dessus. Le mot homme vient de humus. Hein. Homme, humus, tout sur la terre.
Humain.
J'ai dit homme, humus, oui, humain.
C'est un homme, humain.
Oui, humain, oui, homme, femme. D'accord, je vois ce que
c'est. Vrai,
tout à fait, humain, oui. C'est un glissement, humain, homme, alors tout à fait. C'est humain, humus. Or, tout ce qui se fait de naturel est circulaire. Tout est circulaire, tout revient, tout se crée, meurt, se crée. Là, voilà. Or, nous, l'être humain, on a créé quelque chose qui n'est pas circulaire, c'est notre économie. On a créé une économie linéaire qui permet toujours de gagner plus que ce que l'on a créé. C'est toujours l'histoire de l'argent dette crée la linéarité qui est absurde dans un monde circulaire. Et quand vous parlez d'obsolescence programmée, c'est la définition justement d'une obsolescence programmée empêche l'économie circulaire. L'obsolescence programmée, c'est toujours justement vendre plus, gagner plus, faire du profit pour pouvoir payer la dette qui a créé l'argent. Donc justement, pour abolir la pauvreté, abolir l'obsolescence programmée, et abolir donc la linéarité de l'économie, il faut justement créer l'argent par l'existence de l'être humain. L'existence, je vous le donne dès que tu nais, le petit bébé, je lui donne chaque mois de l'argent, et à la fin, quand il meurt, je ne lui en donne plus. L'économie devient enfin circulaire. On va enfin pouvoir passer, je le redis, de l'économie de marché, hein, on pourra ajouter capitaliste.
Mais il insiste.
Ah ouais, mais c'est parce que ça, à l'économie non plus. Alors parce que dire je suis contre, c'est sans programmer, moi aussi je suis contre, mais vaut mieux plutôt dire je suis pour l'économie d'usage et de fonctionnalité. Ça a beaucoup plus de sens toujours quand on dit pourquoi on est que contre quoi on est. Oui. Ça c'est...
j'ai quelques craintes, notamment une, si on devait passer à un système de revenus de base pour tous. Ma crainte, ça serait que les gens à qui on laisse la possibilité de le créer, c'est-à-dire des gouvernants quelconques, se servent de ces 1000 euros qu'ils octroieraient à la population entière pour qu'ils aillent remplir les caddies au supermarché. Avant que la population n'ait acquis des bases de réflexion par des jeudis en question dans une autre proportion que celle de soi, on peut donner à ce capitalisme encore quelques instants de vie assez conséquents. C'est-à-dire que, et que plus, encore plus conséquent, si nous-mêmes, on lui donne ce dont il a besoin, cet argent et ces supermarchés, puisqu'on aura octroyé la population plus que les 450 euros que la dame dit et les 800 euros que la deuxième personne dit, on leur amènerait tout d'un coup 500 euros de plus et 200 euros de plus. Je ne parle pas pour elle, mais je la serais peut-être tentée d'aller aussitôt dépenser dans la grande caisse du capitalisme.
Et là, il faut empêcher Tarta.
Donc, ma crainte, c'est que si on ne le dit si on ne lit pas ce revenu de base à d'autres actions,
bien sûr,
exactement. Politique, on peut l'appeler politique.
Mais oui, c'est évident, ça.
Mais évidemment. C'est pour ça que s'il y a un garçon comme un politique aujourd'hui, comme M. Villepin ou n'importe qui, disait c'est une des solutions et je la mets dans mon programme, j'ai peur.
Ce qu'on espère, c'est que ça va libérer assez de personnes qui ont envie que les choses changent pour faire de la formation, pour s'activer avec ces 1000 euros. Ben, multiplier les comptes débats, aller partout, parler aux gens, multiplier, je sais pas, aller faire des actions, tiens, distribuer les billets comme ça dans les galeries commerciales, vous voyez, s'il y a des billets spéciaux là.
J'ai quand même une crainte que ça prenne dans les 50 ou 100 ans et que pendant cette temps-là, les deux ou trois générations qui ont pu bénéficier de cette chose-là
sont
pris dans un cercle vicieux. Les écologistes ont déjà été pris. L'extrême gauche, par ses slogans, a été rattrapée et pris par le capitalisme. On s'aperçoit que là où il est très fort par rapport à nous, c'est de s'accaparer les visions généreuses, bienfaitrices, solidaires, éthiques, tout ce que vous voulez, que nous, on peut avoir. Mais ils peuvent trouver, peut-être ce sont des gens qui
C'est très important. C'est-à-dire que là où... Alors, il faut bien savoir qu'une base, il est suffisant. Donc, vous l'avez très bien dit, c'est donner un peu plus que ceux qui ont en dessous du seuil de pauvreté. De donner à ces gens-là juste d'être au-dessus. Or, là où ça s'est passé, les expérimentations, les quelques-unes, ont montré que les gens, vous donnez juste à des gens de sortir de la pauvreté pour être juste, avec ce revenu-là en tout cas, juste suffisant. Donc ils vont pas, ces gens-là, ils vont pas dépenser encore plus pourri, au contraire. Ayez confiance à l'être humain. À partir du moment où vous sortez un peu de la misère, qu'est-ce que vous allez acheter? Des choses qui vous font du bien. Vous allez acheter bio, au contraire. Alors ça, on le voit tous les gens. Ça, c'est les gens s'autonomisent. Vous les voyez en Namibie. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils achètent des vêtements pour que leurs enfants aillent à l'école. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, mais ils vont acheter l'alcool. Ils vont acheter l'alcool, ils vont se droguer puisqu'ils auront l'argent qu'ils n'avaient pas avant. Mais les gens, ils sont pas... Par contre, si vous leur donnez 2000 euros par mois, c'est-à-dire deux fois plus que le suffisant, alors là, en effet, c'est absurde. Non seulement c'est inflationniste, mais en plus, alors là, c'est...
C'est pour ça qu'il y a des gens qui tablent quand même pour instaurer le revenu de base, et c'est peut-être pas idiot, ça réfléchit. J'ai pas la solution de l'instaurer en douceur. On le met sur 5-10 ans, et on le met pas trop fort au départ, et on l'augmente progressivement.
C'est le système capitaliste où il y a un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes et on dit on va essayer d'en gagner un par an ou peut-être. Si ça marche.
C'est ça qu'il faut comprendre. Le système capitaliste, c'est pas nous qui le générons. C'est pas nous, là, les 99%. Il faut savoir qu'ici, nous représentons 99% des êtres humains sur Terre, en fait. Et que le capitalisme, il n'est pas généré par nous. Il est généré par les 1% qui détiennent l'argent de dette, qui nous créent l'argent par la dette. Donc, cette peur du capitalisme, je comprends bien, hein, mais elle est due à une peur de... On a perdu confiance en l'être humain. Alors que l'être humain,
il n'est pas capitaliste en soi. Confucius le dit très bien, il n'est pas mauvais en soi. Il le devient avec nos pressions, justement. Non, il n'est ni bon ni mauvais, c'est justement la capacité, alors on ne l'a pas dit, mais le rune base permet enfin de concrétiser liberté, j'en fais ce que je veux, l'égalité, chacun a la même art. Le même revenu de base, hein. Après chacun, ceux qui veulent gagner beaucoup travaillent beaucoup, hein. Mais liberté, égalité en général dans une société, ça crée quoi? La fraternité. On se retrouve enfin avec les trois piliers, on va dire concrétisés, et non plus théoriques comme aujourd'hui, et d'ailleurs inexistants.
Pour répondre à Didier, je pense pas qu'il ira dans les grandes surfaces, parce que si tu prends le prix des carottes, je reviens à la basique là, au panier paysan, tu compares au prix des carottes effectivement dans un supermarché. Mais si tu mets le prix écologique à ces carottes du supermarché, elles seront plus chères que, que les carottes de proximité. Et donc il n'ira jamais acheter ces carottes-là.
C'est pour ça que cette taxe à la TVA est importante.
Ouais,
c'est vachement
pour commencer.
Ouais.
Carottes,
bien, Gégé, bien. Merci, Louis, merci.
Non, mais je fais des commissions, contrairement à ce qu'il dit.
Non, mais il y a des solutions, ouais. Mais en tradition écologique, avec la TVA, on augmente les produits qui polluent. Donc.
TVA, ça va être moins juste.
Bon. Ouais. Bah, oui, mais enfin, en augmentant le prix des produits, on peut l'augmenter comme ça. Comme vous voulez.
On peut parler de la dette, mais cette dette, on ne peut pas aussi un peu.
Ah, le jubilé.
Alors, on
justement,
on garde la dette et puis on.
Non, David Grébert en parle, lui.
Alors, soit la dette, donc de toute façon, on ne peut pas la payer. On peut pas. Alors, soit on l'annule, mais toutes les dettes sont imbriquées et donc forcément, c'est. Enfin, alors, David Grébert lui propose ça, mais c'est vraiment, ça peut créer des guerres. C'est-à-dire que c'est vraiment très dangereux. C'est vraiment un risque. Moi, j'ai analysé ça un peu. Le jubilé, mais en même temps, ça a déjà existé. Il y a des sociétés, par exemple, à la Grèce, ou même.
L'Islande.
Hein?
En Équateur.
Non, mais il y a longtemps, je parle de la Grèce, avant Jésus-Christ. Tous les 40 ans, ils faisaient un jubilé. Tous les 40 ans, ils annulaient des dettes. Donc on voit bien que le jubilé a fait partie de notre histoire.
Et c'est 2015, le prochain jubilé.
Voilà. Donc, alors justement, ce qui est très intéressant que propose Gérard Fouché, il dit si on crée l'argent par le revenu de base, ça permet justement la garantie de tous payer nos dettes, que ce soit. Parce qu'il faut savoir que le revenu de base en création monétaire est aussi un revenu de base en investissement gouvernemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos gouvernements, pour investir pour le bien public, sont obligés de faire un emprunt, c'est-à-dire pour les routes par exemple, on va être obligé d'emprunter de l'argent pour faire des routes et de le rembourser avec intérêt. Donc même il faut que les routes rapportent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des péages. Donc c'est pour, donc la création monétaire en revenu de base, elle serait pour nous chacun en percolation, ce qu'on appelle 1000 euros chacun chaque mois, toute la vie. Et les gouvernements aussi auraient droit, alors là, ça faudra être vigilant, enfin plus qu'aujourd'hui en tout cas, sur la capacité d'avoir de l'argent sans dette, hein, pour les routes par exemple. Donc on n'aurait pas besoin de péage, puisque cet argent, il serait dédié, il serait créé, donc imprimé, hein, c'est ça la création monétaire, c'est quand au moment où l'argent est imprimé, c'est-à-dire soit sur un ordinateur, soit en planche à billets, il serait créé pour des événements, des investissements publics, sans dette. Donc cet argent qui serait donc créé sans dette permettrait de tous nous désendetter progressivement, doucement, sans guerre, sans jubilé, de façon totalement non violente.
Alors il y a l'audit citoyen de la dette justement qui dénonce la dette odieuse. Donc la dette ne doit pas être remboursée systématiquement. Il y a des exemples concrets comme l'Équateur, etc. Et pourquoi ce problème de l'argent de dette, c'est parce que depuis 1973, ce sont les banques privées qui font ça. Mais il pourrait très bien y avoir la banque centrale qui les prête à taux zéro pour
les services publics. Tout à fait, c'est ça. C'est la création monétaire.
Pas, oui, sans dette. Évidemment, mais il ne faut surtout pas dire qu'il faut rembourser la dette. Il y a les dettes illégitimes, même en France. Alors, en Grèce, n'en parlons pas, etc. Et donc, il y a des exemples concrets. Hein, d'ailleurs, ça se négocie à Paris, hein, toutes les dettes du monde. Et là, il faut le dénoncer. C'est pour ça qu'il y a l'audit.
Il y a qu'un pays qui ne l'a pas fait, c'est celui dont vous avez cité.
Il y a l'Argentine, il y a l'Équateur. Je peux vous en citer un bon
bagage. Non, justement, l'Argentine est dans de l'argent de dette. L'Argentine est obligée de vendre.
L'Argentine
70% de ses rentrées viennent de maïs transgénique.
Donc, le fait que l'Argentine...
Pas la même chose,
oui, non, mais c'est pour dire que, certes, ils n'ont pas payé leur dette, mais comme ils n'ont pas changé la création de l'argent par la dette, ils sont obligés toujours de rembourser sur un investissement et donc de faire des choses qui sont totalement capitalistes, c'est-à-dire que faut savoir que l'OGM existe parce qu'on est dans une société d'argent-dette. Parce que justement, le système a toujours besoin de faire du crédit et de rapporter. Or, les OGM, justement, permettent de... C'est de l'anti-économie circulaire des OGM, puisqu'il meurt, on ne peut pas refaire une graine avec un maïs OGM. Vous êtes obligé d'acheter chaque année au semencier. Donc justement, il faut savoir que tous nos problèmes, mais tous, proviennent de ce problème d'argent de dette à la base. Tous nos problèmes socio-économiques, pas ceux entre l'homme et la femme, mais enfin quoi que.
Je vais vous faire une liste des pays, où la dette a été répudiée. Et vous voyez qu'il y en a pas mal. Dont la Russie, l'Argentine, l'Équateur, etc., etc.
Mais ça amène encore une fois après une crise.
L'inflation va vous faire la dette. À un moment, il y aura des liquidités.
Je vous l'ai dit, puisque vous le donnez à chacun.
Non, mais on parle du système actuel, là.
Ah oui, oui, ah, pardon.
Dans votre système, c'est l'impôt qui récupère l'argent. Pourquoi qu'il y ait trop de masse monétaire.
Oui.
Alors, non, parce que ça, alors justement, à partir du moment où vous donnez 1000 euros à chacun, la masse monétaire, elle augmente tellement naturellement par rapport à l'existant que justement, il n'y a pas de problème d'accumulation d'argent, plus que les gens meurent et vivent et donc et naissent, je veux dire. Il y a un équilibre, meurent et naissent. Donc, il y a un équilibre circulaire qui justement empêche l'inflation. L'inflation, c'est quand il y a une rentrée d'argent et que les gens ne dépensent pas. Pas assez, en tout cas. Et du coup, dans certains domaines, dans des bulles, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec plus d'argent que ce qu'ils peuvent dépenser. Par exemple, la guerre 1934, Hitler est au pouvoir. Pourquoi les gens ont voté pour lui, en grande partie? C'est parce qu'il y avait une inflation énorme. Les banques, après 14-18, les banques ont prêté de l'argent énormément à l'Allemagne, énormément, avec plein de taux d'intérêt, évidemment. Donc l'Allemagne se retrouve avec plein d'argent, mais pas les individus, hein. Les sociétés, évidemment, les grosses sociétés, avec beaucoup d'argent. Donc il y avait beaucoup d'argent dans la société, mais pas de possibilité de dépenser. Donc ça crée une inflation, ça c'est direct. Une énorme inflation. Les gens, les billets achetaient le pain presque avec une boîte d'argent. Et du coup, ça crée une crise absurde, ça donne des guerres. Ça donne des guerres, l'inflation. Mais bon, c'est un peu compliqué là, mais...
Ouais, parce que là, après, c'est hyper intéressant, la création monétaire, c'est vrai. Mais il ne faut pas que ça empêche de vous faire rêver sur le revenu de base et de vous penser à nos façons. Nos façons aussi de se remettre. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est ça, ça interroge aussi le travail de soi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et c'est pas, il y a aussi des gens qui ont peur, je pense, pour le revenu de base, parce que c'est une grande liberté. Il y a quelqu'un qui me dit, mais tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu vas pouvoir choisir ton activité. Alors qu'actuellement, on dit aux gens, voilà, il faut que tu trouves un métier qui rapporte ou qui embauche pour les jeunes. Dès la troisième, aux gamins, on leur dit, les métiers qui embauchent, on leur fait des conseils d'orientation. Alors là, ça embauche, en plus, ils ne savent plus parce que les métiers changent tellement vite maintenant qu'on ne sait plus dans 5 ans lequel va être pire ou pas. Donc les gamins, ils n'ont même pas le choix, il faut qu'ils aillent dans une branche où ça doit embaucher. Mais non, on est dans un leurre total, là. Et c'est pas très réjouissant. Tandis que, voilà, parlez à un enfant, essayez de voir avec vos ados, si vous avez des ados autour de vous, parlez-leur du revenu de base, de cette idée, et dites-leur, voilà, vous avez imaginé, un gamin imagine aussi très facilement, imaginez, vous avez cet argent, et même les vieux aussi, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec, et voilà, comment vous allez envisager votre vie? C'est tout d'un coup une autre ouverture qui se crée énorme, hein, dans l'esprit des gens. Ça, c'est quand même intéressant d'interroger avec le revenu de base.